Nous allons donc ouvrir la bonne parole du Seigneur et pour nous allons donc garder la Bible donc à portée. Nous allons aller dans plusieurs textes de l'Écriture, ça et là, donc dans divers passages de la Bible. Le premier texte que nous lirons, nous le trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 et au verset 3. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 3. Voilà, pendant que vous cherchez, moi j'ai trouvé, je regarde encore vos visages. Alléluia. Je me réjouis de revoir Pascal. Gloire à Dieu et d'autres encore, voilà. Béni soit le Seigneur. Notre frère bien-aimé, toujours fidèle à la sono. Alléluia. Je rends grâce à Dieu vraiment pour cette joie. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, Matthieu chapitre 24, verset 3. Il est question de Jésus et nous lisons ceci. Donc, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier, lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », ce qui signifie, « C'est moi qui suis oint ». Hein, voilà. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nous allons au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et puis nous lisons encore au verset 24, c'est toujours le même discours, en tout cas la même réponse de Jésus à la question posée par les disciples. Et au verset 24, Jésus dit donc, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Amen. Alors voici donc ce texte d'introduction, ce texte, en tout cas, les chapitres 24 et 25 sont décrits dans les évangiles. Il y a d'autres, et repris en fait dans les trois évangiles qu'on appelle synoptiques, concernent ce qu'on appelle le discours eschatologique de Jésus, c'est-à-dire le discours sur les dernières choses. On dit les derniers temps, mais sur les choses dernières en réalité. Et c'est vrai que Jésus donc va donner une très longue réponse à une question qui est posée par les disciples, qui étaient désireux de connaître quel serait le signe de l'avènement, car Jésus a parlé de son avènement en gloire, de son retour en gloire, c'est-à-dire de ce moment où il va d'abord chercher l'Église pour l'enlever, la prendre auprès d'elle, et puis, dans un deuxième temps, il va revenir avec l'Église sur la terre, voilà ce qui concerne en quelque sorte, pour faire court, l'avènement. En tout cas, la question que posaient les disciples c'était à ce sujet. Ils voulaient savoir quel serait le moment, le signe. Ils voulaient pouvoir se repérer dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que la première des choses que le Seigneur va dire à ses disciples, et donc par extension à l'Église, c'est une mise en garde qu'il adresse à cette église qu'il a rachetée au prix de son sang précieux, une mise en garde contre des temps de séduction particuliers. C'est pourquoi j'ai donné ce titre donc à ces quelques jours de mission, l'Église face à la séduction spirituelle des derniers temps. Ainsi que nous allons le voir, nous sommes déjà depuis plusieurs années entrés dans cette phase de grande séduction. Et s'il y a dans ce chapitre 24 et ce chapitre 25 de Matthieu beaucoup d'éléments dans la réponse de Jésus, il faut noter que à plusieurs reprises, Jésus va mettre en garde ses disciples, et par extension, je le disais donc l'Église, contre la séduction des faux prophètes, la séduction des faux docteurs. Ce n'est pas une mince affaire, puisque Jésus lui-même dit que ces séducteurs qui vont venir vont séduire beaucoup de gens. Et là, il n'est pas question des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont déjà séduits, mais il est question véritablement d'un message qui est adressé à l'Église. Les temps qui vont précéder l'avènement immédiat du Seigneur seront marqués par une séduction absolument redoutable, et c'est pour en tout cas nous équiper face à cette menace que ce sujet est abordé dans tout le Nouveau Testament. En fait, c'est difficile de décrire l'importance du sujet. Sur trois réunions, j'ai essayé de restreindre d'apporter les points principaux. Mais il faut savoir que à l'exception de la troisième épître de Jean et de l'épître de Paul à Philémon, à l'exception de ces deux courtes des épîtres, tous les autres livres du Nouveau Testament, pour ne parler que du Nouveau Testament, traitent du sujet de la séduction. Absolument tous les auteurs inspirés du Nouveau Testament ont traité ce sujet inspiré par le Saint-Esprit. C'est dire donc l'ampleur du sujet. Et donc nous avons bien besoin de prendre ces choses en compte pour pouvoir résister dans ces jours mauvais que nous vivons depuis plusieurs années déjà, mais qui vont aller en s'intensifiant. Ce que je voudrais dire, c'est, avant d'aller un petit peu plus loin, croire que nous sommes à l'abri de la séduction, penser que, ma foi, moi je suis à l'abri, c'est déjà être en danger, parce que nous, écoutez, on va le voir tout de suite, hein, voilà, on va se laisser conduire, j'ai plein de textes qui me viennent là, dans la tête, alors voilà, prenons s'il vous plaît, parce que c'est quand même le but, tournez les pages de la Bible, Galates chapitre 1er, l'épître de Paul aux Galates au chapitre 1er, Paul était très inquiet pour ces chrétiens de Galatie auxquels il avait annoncé l'évangile lors de ses voyages missionnaires. L'évangile a été annoncé dans la puissance du Saint-Esprit, des hommes et des femmes ont reçu ce message avec le cœur, et ils ont cru à ce message, et le miracle de la nouvelle naissance s'est produit. Ces hommes et ces femmes sont nés de nouveau. Mais Paul pointe ici une menace particulière, c'est encore la menace de la séduction qui nous concerne aujourd'hui, et il dit ceci, je m'étonne, Galates chapitre 1er verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, notez bien, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Voyez, Paul dit de manière explicite que lui-même, il sait qu'il n'est pas à l'abri de la séduction. Et il sait que pour rester préservé de cette menace redoutable, il faut véritablement, eh bien, vivre en Christ, étant rempli du Saint-Esprit. C'est ce que nous verrons, Dieu voulant. Mais je voulais attirer votre attention sur ce point. Alors, je rappelle très brièvement le but de l'Évangile. Eh bien, quel est-il? Eh bien, le but de l'Évangile, c'est d'annoncer le message de Jésus-Christ, de rappeler cette menace redoutable qui plane sur tous les hommes dont l'Écriture nous dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais Jésus est venu, Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable, et en Christ, nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Et en ayant reçu le pardon des péchés, eh bien, nous pouvons retrouver ce que, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient perdu, c'est-à-dire ce statut de pouvoir vivre réellement en communion avec notre Créateur, par Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que ce grand malheur qui a atteint tous les hommes, qui a frappé tous les hommes, eh bien, il n'est pas irrémédiable, il y a un remède, et Jésus-Christ est le remède. Il est venu régler une fois pour toutes le problème du péché en offrant volontairement, délibérément sa vie sur la croix du calvaire, en versant son sang pour que, à travers son sang, non seulement nous soyons purifiés du péché, mais que le péché soit ôté de notre vie et que nous puissions vivre en communion avec Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Et tous ceux qui ont pu expérimenter la puissance de ce message ont pu expérimenter ce que c'est que la nouvelle naissance. Certainement et sans conteste, quel que soit notre parcours et notre expérience, nous pouvons dire qu'il y a eu, quand on a véritablement vécu la conversion à Dieu par Jésus-Christ, il y a un avant et il y a un après. C'est vrai ou c'est pas vrai? Gloire à Dieu. Il y a un avant et il y a un après. Maintenant, il ne suffit pas d'entrer dans le plan de salut que Dieu a préparé pour nous en Jésus-Christ, mais il faut y rester. Et il faut y rester jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans son amour, nous a donné les moyens de pouvoir non seulement être sauvés, mais de pouvoir rester sauvés jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas sans ressources. Alléluia. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais nous avons quelqu'un dans le ciel qui nous aime tellement. Il a tout préparé. Tout est déjà prêt. Alléluia. Mais c'est à nous de demeurer dans le jalon de son amour, dans sa parole qu'il nous laisse et qui est tellement précieuse. Nous allons poursuivre, hein. Voilà, je voudrais donner rappeler d'abord la séduction, c'est un très vaste sujet. Juste un texte de l'Écriture que nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Voici ce que nous dit l'Écriture. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Voilà, je vous laisse le temps de trouver. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Notez comment il est appelé, notre adversaire, notre ennemi. Il est appelé, donc, le diable, et Satan, littéralement l'opposant à Dieu. celui qui séduit, qui trompe toute la terre. On peut distinguer, déjà on peut comprendre que celui qui est à la base de la séduction, qui sévit sur toute la terre, eh bien c'est Satan le diable. Il y a, on peut dire, une séduction d'ordre général qui consiste à faire croire aux hommes eh bien, qu'ils peuvent vivre sans Dieu, qu'ils peuvent vivre dans le péché, que Dieu n'existe pas, que le diable n'existe pas, voilà. Et c'est pourquoi mangeons et buvons, car demain nous mourrons, il faut profiter de la vie, etc. Voilà. Ça, c'est une forme de séduction qui est absolument courante dans le monde, particulièrement dans nos pays occidentaux. Et puis, il y a une deuxième forme de séduction qu'on pourrait appeler une séduction religieuse, qui est une séduction qui est extérieure à la vie chrétienne, encore une fois, et qui concerne l'ensemble de toutes les fausses croyances spirituelles, des diverses religions, des sectes qui maintiennent les hommes dans l'ignorance, dans l'erreur et dans le mensonge, loin de Dieu, loin de Christ et de son salut. Voilà. Ça, c'est une forme de séduction. Et vous avez noté que toutes les religions, absolument toutes les religions, elles ont leurs prodiges, leurs miracles, leurs événements surnaturels, n'est-ce pas ? Et vous savez, il n'y a pas que Dieu qui sait faire des choses extraordinaires, des prodiges, des miracles. Une des caractéristiques qui va, en tout cas des temps de la fin, c'est que ces faux prophètes, ces séducteurs, ils accompliront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, si c'était possible, mais... Heureusement, Dieu ne permet pas que cela soit possible, même les élus. Il faut savoir que la puissance de séduction du malin est immense. Si vous lisez le texte de l'Apocalypse au chapitre 20, verset 10, si ma mémoire est bonne, vous verrez que, après avoir été lié pendant 1000 ans, lorsque Satan va être relâché, après que les nations aient été enseignées pendant 1000 ans, mais Satan va être relâché et il va réussir à séduire encore ces nations. Bon, je referme la parenthèse parce que ce n'est pas notre sujet, mais pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer cette puissance de séduction. Et puis il y a, troisième point, c'est ce sujet-là que nous allons traiter, cette séduction spirituelle qui essaie d'infiltrer la vie chrétienne pour amener ceux qui ont cru en Jésus à se détourner de la foi qui sauve et qui a été transmise au saint une fois pour toutes. C'est ce que nous dit Jude au verset 3. Voilà. C'est de ce sujet-là que nous allons traiter et c'est par rapport à cela que Jésus répond à ses disciples « Prenez garde que vous ne soyez séduits car... plusieurs viendront sous mon nom, c'est-à-dire de ma part, disant, c'est moi qui y étais oint, c'est moi qui suis le Christ. Alors on a toutes sortes d'exemples. D'ailleurs, chez nous, enfin, dans le Vaucluse, on a, à côté d'Avignon, ça touche même, il y a le petit village de Montfavet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Christ de Montfavet. Si vous n'avez pas entendu parler, c'est pas grave, vous n'avez rien perdu. Mais il y a, dans les années, si ma mémoire est bonne, c'était 70 par là, quelque chose comme ça. Bien d'homme, c'est pris pour le Christ, voilà. Et j'allais dire chez nous, quoi, voilà. Mais il y en a tant et tant, et il y en a eu tant et tant tout au long des siècles, n'est-ce pas, voilà. Donc, nous avons besoin de veiller pour ne pas être détournés de la foi qui sauve. J'aimerais prendre avec vous un texte que nous allons trouver maintenant. Voilà. Peut-être allons dans le livre des Actes des Apôtres, pour vous montrer que... Donc tout d'abord, excusez-moi, prenons Matthieu chapitre 7, Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Voilà. Nous allons lire le verset 13, 14, 15 et 16. Il est dit ceci, c'est Jésus donc qui enseigne et qui invite ceux qui l'écoutent donc à entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Voilà, on va arrêter la lecture. J'ai voulu vraiment lire du verset 13 au verset 15 pour vous montrer que, après avoir montré la voie du salut, après avoir invité les gens à entrer par la porte du salut, et Jésus, il est cette porte, n'est-ce pas ? Il met immédiatement en garde ceux qui sont entrés contre les faux prophètes. Il les décrit comme étant des loups qui sont déguisés en vêtements de brebis. Nous allons maintenant, s'il vous plaît, dans Actes des Apôtres, au chapitre 13. Vous savez, Jésus avait dit, voici, ils viendront sous mon nom. Eh bien, ça n'a pas tardé. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 6. Voilà, Paul et Barnabas, donc, arrivent dans l'île de Chypre. Et il dit ceci, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui pardon, et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Voilà, nous avons dans ce texte des éléments précieux puisqu'il est question d'un faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus, en araméen, ça veut dire « fils de Jésus », ce qu'il faut comprendre comme, en tout cas dans le langage du Nouveau et même de l'Ancien Testament, « fils de Jésus », ça voulait dire « disciple de Jésus ». Voilà. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, notamment au temps du prophète Élisée, vous avez cette expression « les fils des prophètes », »,« les fils du prophète », voilà, « les fils des prophètes ». En fait, ça veut dire « les disciples », hein, voilà, voilà. Paul parle de Timothée comme son fils, voilà, son enfant, voilà. Il parle d'Onésime comme son enfant qu'il a engendré dans les chaînes, voilà, son disciple, hein, voilà. Donc, eh bien voilà, nous avons l'accomplissement de ce que Jésus a dit. Gardez-vous des faux prophètes, ils viendront sous mon nom. C'est exactement ce que dit cet homme. Cet homme, il s'appelait Élimas, c'était un magicien, mais il se faisait passer pour un disciple de Jésus. Et son but, c'était de se tenir auprès de Sergius Paulus, qui était un homme de pouvoir. Les faux prophètes, c'est une de leurs caractéristiques. On verra demain, je pense. Nous verrons, puisque Jésus a dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits », nous verrons comment on peut reconnaître ces faux prophètes. Vous savez, aujourd'hui, en quelques clics, voilà, sur Internet, vous pouvez être en contact avec un faux prophète sans le savoir. Voilà. Donc il faut être prudent et il faut être équipé Et il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi, il ne faut pas avaler tout et n'importe quoi, voilà. Et heureusement, la parole de Dieu nous donne les moyens de reconnaître ces faux prophètes. Mais voilà, celui-ci, Bar Jésus, il prétendait être disciple de Jésus. Et en réalité, son but, c'était de se tenir auprès de cet homme de pouvoir. Je vous le disais, ces gens, ils recherchent le pouvoir, ils recherchent les honneurs, et ils cherchent à dominer. On verra cela. Et en réalité, lorsque Paul notait, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la précision nous est donnée, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, c'est parce que Paul était rempli du Saint-Esprit qu'il a discerné que cet homme qui se faisait passer pour un disciple de Jésus-Christ n'était pas un disciple de Jésus-Christ, mais il va lui dire « Fils du diable ». Ça veut dire « Tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, mais en réalité, tu es un disciple du diable ». Parce que cet homme, en réalité, c'était un magicien, voilà. Et si la précision nous est donnée, c'est parce qu'il opérait certainement des actes de magie qui pouvaient, eh bien, impressionner, pourquoi pas, hein, le proconsul, même Sergius Paulus, et bien d'autres. Et aujourd'hui, nous vivons ces temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais combien sont prêts à courir, à faire des kilomètres, parce qu'on a entendu parler qu'à tel endroit, il y a un grand prophète. Alors là, on est prêt à courir. Voilà. Alors on court après les signes, on court de droite, mais dans les évangiles, ce n'est pas les chrétiens, les croyants qui courent après les signes, mais ce sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors soyons prudents, frères et sœurs, et ne nous, nous laissons pas impressionner par ce que nous entendons, etc. Exerçons avec la grâce du Seigneur le discernement que le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit. Nous allons un peu... Nous allons un peu plus loin, pardon, de 2 Corinthiens, s'il vous plaît, au chapitre 11. De Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Paul est très en souci lorsqu'il écrit cette lettre. Il l'écrit à partir d'Éphèse, il est resté 3 ans à Éphèse. Et Dieu faisait par Paul des miracles absolument extraordinaires. Une église formidable avec un grand message d'ailleurs est parti dans toute l'Asie mineure à partir d'Éphèse. Et au moment où il va quitter Éphèse, eh bien, il écrit cette lettre aux Corinthiens. Et il leur dit ceci, c'est la seconde. Hein. Il leur dit, verset 3, dans une grande inquiétude, il dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Donc on va arrêter là la lecture, parce que je voudrais relever dans ce texte ce que nous avons lu, au-delà de l'inquiétude, des craintes vraiment qui sont là dans le cœur de l'apôtre, hein, voilà, cette expression « un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile ». Tout à l'heure, nous avons lu, Paul le dit aux Galates, il n'y a pas d'autre évangile, il y a un seul évangile, il y a un seul Dieu, il y a un seul évangile, il y a une seule foi. Voilà. Mais il y a des gens qui viennent, comme par exemple ce Bar Jésus, ces faux prophètes, ces faux docteurs, qui dans leur discours vont parler de Jésus, ils vont parler de l'évangile, Ils vont parler même de la croix. Ils vont parler même de l'esprit. Mais Paul dit, attention, ce n'est pas le Jésus dont moi je vous ai parlé. Ce n'est pas l'évangile que moi je vous ai annoncé. Ce n'est pas l'esprit que vous avez reçu. Ça, c'est l'esprit de la séduction. C'est l'esprit de la séduction. Regardez ce que Paul disait encore à ses Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. D'accord ? Ça va ? Vous êtes encore là ? Voilà. Ne dormez pas, hein ? Pas encore. Voilà. Mais c'est important de noter cet avertissement inspiré par le Saint-Esprit. Paul dit, je vous ai annoncé l'évangile, vous l'avez reçu, vous avez persévéré dans cet évangile, vous êtes sauvés, mais retenez-le dans les termes où il vous a été annoncé. Sinon, vous auriez cru, vous allez croire en vain. Et c'est ça toute la malignité de ces faux prophètes et de ces faux docteurs. C'est que dans leur discours, ils parlent de Jésus, ça fait du bien quand ça s'arrête là, voilà. Ils parlent de Jésus, ils parlent de l'évangile, ils parlent de l'esprit, mais ce sont des séducteurs, des enjôleurs. Vous voyez, ils vous caressent comme ça, voilà, et ils exercent une fascination. D'ailleurs, Paul dit aux Galates, mais qui vous a fasciné ? Ce mot, il évoque, vous savez, vous savez, vous avez des serpents arboricoles qui sont capables d'attraper des oiseaux. Pourtant, un oiseau, il a des ailes. Voilà. Et vous savez comment ils font ? Ils montent, tac, et ils ont repéré leur proie. À un moment donné, tac, ils vont fixer l'oiseau, et l'oiseau, il est comme captivé, là. Et pendant ce temps, eh bien, le serpent, il commence à se ramasser, il commence à tendre son corps, et vous avez l'oiseau, il est là, il bouge pas, et à un moment donné, il se détend comme une flèche, tac, c'est fini. Il est dans la gueule du serpent. Qui vous a fasciné ? Ben, ces séducteurs-là, ces faux prophètes, ces faux docteurs, parce qu'ils sont animés d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Christ, mais qui est l'esprit de la séduction. Eh bien, ils sont capables de séduire. Ils sont capables d'imiter l'onction. C'est pour ça que Jésus dit, il s'élèvera de faux Christ. Ce sont des faux oints qui sont capables de créer une fausse atmosphère spirituelle, faussement spirituelle. Donc nous avons besoin de veiller, n'est-ce pas ? Et le drame que Paul soulignait à l'égard de ces Corinthiens, c'est que il leur disait, mais si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus ou un autre évangile, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, le drame, il était que vous le supportez fort bien. Voilà. Vous savez, quand on mange une nourriture avariée, ça vous est peut-être arrivé, hein, vous êtes allé manger mais quelque part, voilà, vous avez été intoxiqué. Qu'est-ce qui fait le corps ? Lorsque la nourriture n'est pas bonne, le corps ne supporte pas cette nourriture. Pourquoi ? Parce que, eh bien, Dieu a doté, nous a doté de ce moyen de rejeter tout ce qui peut nuire à la vie du corps. Donc, eh bien, on est pris de vomissements et on rejette cette nourriture. Voilà. Et vous savez, c'est un petit peu comme au temps du prophète Élisée. Vous connaissez la soupe de coloquinte, hein ? Voilà. Les fils des prophètes étaient allés, c'était un temps de famine, et il y avait la soupe qui était là, qui remuait, enfin qui bouillait là, et puis il y a un fils des prophètes qui a trouvé des fruits magnifiques, et il se dit, oh, super, Il y avait marqué, c'est des fruits qu'on ne les connaissait pas, mais lui, il en a ramassé plein son vêtement. Il est venu, toc, 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 il a mis ça dans le pot, il a touillé. Et au moment de manger, vous connaissez l'histoire, hein. Ah, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils n'ont pas pu manger. Eh bien, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur quand c'est comme ça. Quand on goûte quelque chose et qu'on se dit, bah, c'est pas Christ. C'est pas l'Esprit de Christ. C'est pas l'Évangile de Jésus-Christ. Mais les Corinthiens, ils supportaient. C'est pourquoi ils étaient en danger. Et je vous dis cela, bien-aimés frères et sœurs, mais combien j'ai pu voir, combien votre pasteur a aussi pu voir, parce qu'on vit les mêmes expériences, malheureusement. Combien de frères et sœurs, parfois, ont gobé ces faux évangiles. Et voilà, ils ont trouvé ça même très très bon, à tel point qu'ils ont même quitté l'assemblée. Et ils sont partis. Je me souviens de ce jeune, voilà, qui avait entendu l'évangile. Ah, c'était formidable. Il a fait un départ formidable, il était consacré, tout ça, et puis bon, voilà, il servait le Seigneur dans son église, dans le domaine de la musique. Voilà, il était batteur. Et puis un jour, voilà, il a été écouter un faux prophète qui lui a raconté des choses que son pasteur lui avait jamais dit, notamment qu'il aurait un grand ministère et qu'il allait parcourir le monde. Et qu'il allait devenir un chef d'orchestre remarquable, etc. Eh bien, voilà comment il a été amorcé, il est parti, et malheureusement, quelques mois plus tard, il ne suivait plus ce faux prophète, mais il était complètement détruit, moralement, spirituellement, ne voulant entendre parler de plus rien, concernant les choses de Dieu. Il avait été trompé, trahi. Pourtant, son pasteur l'avait prévenu, mais voilà. Vous savez, le venin du diable, le poison du diable, contient de multiples toxines, particulièrement la toxine de l'orgueil. Et quand c'est infusé dans un corps, il faut toute la grâce du Seigneur pour revenir humblement aux pieds du Seigneur. Et le drame, c'est qu'on ne s'en rend pas compte si on ne veille pas à être rempli du Saint-Esprit. On ne s'en rend pas compte. C'est ça le drame. C'est ça la dangerosité de ces faux. On va essayer de... Voilà, je regarde juste un peu. Si vous voulez, on peut revenir à 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Voilà, Paul dit, donc Paul décrit un petit peu ce que sont ces gens qui sont venus prêcher un autre Jésus, un autre évangile avec un autre esprit. Et il explique au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, c'est-à-dire de faux envoyés, c'est-à-dire des gens qui ont dit, voilà, nous venons de la part de Dieu, mais c'était des faux envoyés, ce n'était pas Dieu qui les avait envoyés, voilà. Et vous allez voir qui les avait envoyés. Des ouvriers trompeurs, ou encore des ouvriers de séduction, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Voilà qui étaient ces gens en réalité. Ils prétendaient être serviteurs de Dieu, serviteurs de Christ, être des bar-Jésus, des disciples de Jésus. Mais en réalité, ils étaient des serviteurs de Satan, des ministres de Satan. Ils étaient, comme Bar-Jésus, en réalité des fils, des disciples du diable. Par conséquent, voyez que c'est quand même extrêmement dangereux. Donc, pour apporter un mot de conclusion, il faut conclure maintenant. Pour apporter un mot de conclusion, je dirais, prenons Actes des Apôtres, chapitre 20. Voilà. Paul a rassemblé les anciens d'Éphèse au moment de prendre congé de l'Église et de toute cette région. Il leur dit ceci, verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Hein. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Car je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Les loups, on sait qui c'est, hein, ce sont les faux prophètes, hein, voilà, ou les faux docteurs. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul, averti par le Saint-Esprit, est saisi de cette menace qui vient sur l'église d'Éphèse après son départ. Et il annonce ici une double agression, en fait. Une agression qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'introduira parmi vous des loups cruels. Voilà. Et puis, une agression beaucoup plus dangereuse encore. Il s'élèvera du milieu de vous. Voilà. Et il avertit solennellement les anciens, les responsables, leur rappelant que c'est pas leur église, c'est l'église de Dieu, que Dieu s'est acquis par le sang précieux de Jésus. Il leur rappelle ces 3 années qu'il a passées à leur côté. Il leur annonçait tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Il les a exhortés avec larmes. Ce devait être un moment particulièrement poignant pour ces anciens d'Éphèse. Et cette menace, elle s'est effectivement produite. On ne sait pas quand exactement, mais ce que nous savons, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, prenez-le, après ce sera fini. Apocalypse, chapitre 2, vous savez, le Seigneur Jésus donc s'adresse à l'église d'Éphèse. Hein, mais là, nous sommes plusieurs années, peut-être 40 ans, une quarantaine d'années après, donc, le passage de Paul, l'avertissement de Paul. Et voilà, Jésus dit ceci, Apocalypse chapitre 2, verset 2, « Je connais, dit Jésus, donc tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Écoutez bien, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, etc. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, plusieurs années après, c'est pas quand, mais plusieurs années après, ce que Paul avait annoncé par le Saint-Esprit, ça s'est accompli. Des gens sont venus dans cette église d'Éphèse, et ils ont dit, voilà, nous sommes des envoyés de Dieu. L'apôtre, ça veut dire envoyé. Hein. Nous sommes des envoyés de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et nous voulons vous annoncer l'évangile, voilà. Les anciens ont dit, mais ok, allez-y, nous vous écoutons. Les anciens les ont écoutés, l'Église les a écoutés, mais quand ils ont entendu le message qu'apportaient ces gens, ils ont dit, mais vous n'êtes pas des envoyés de Dieu. Vous ne dites pas la vérité. Vous êtes les prédicateurs de mensonges. Et certainement, ils les ont chassés. Pourquoi ont-ils réagi ainsi? Parce qu'ils se sont laissés avertir. Et nous, nous avons besoin, frères et sœurs, de prendre à cœur cette parole, de la recevoir avec un cœur sincère, reconnaissant au Seigneur, de nous laisser avertir. Et dans cette mesure-là, Dieu qui connaît nos cœurs, s'il voit que effectivement nous sommes dans ce bon état d'esprit, ce bon état de cœur, nous échapperons à la séduction redoutable de ceux qui se disent envoyés de Dieu et qui ne le sont pas. Donc que Dieu nous aide, voilà, terminer là peut-être. Puis si vous voulez, donc on pourra continuer demain, voilà, le temps a beaucoup passé, je m'en excuse. Nous verrons demain, nous parlerons du sujet comment les reconnaître, ces faux prophètes. Voilà, on verra quelques points et nous verrons que le Seigneur, dans son amour, nous a donné les moyens vraiment, non seulement de les identifier, mais de pouvoir leur résister, exactement comme Paul l'a fait face à Bar-Jésus, qui était un magicien, je le rappelle. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir laissé tous ces jalons bibliques qui, vraiment, vraiment ta parole, elle est vraiment comme une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire, elle est lumière. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est recevoir cette parole, la garder, l'honorer. Nous voulons, par là même, t'honorer toi, Seigneur, qui en est l'auteur, et te dire avec une profonde gratitude, merci, Seigneur, pour l'Église. Merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Oh, nous louons ton nom, notre Dieu. Merci, Seigneur, de bénir les enfants de ton peuple ici, à Groyer. Et merci de nous aider ensemble à tenir ferme dans ces mauvais jours. Au nom de Jésus-Christ, merci notre Père et notre Dieu. Amen. Amen.